Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Nous sommes en février 2021, c'est l'épisode 389. Je suis Patrick Béja et j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui dans l'émission Cédric De Luca. Comment va Cédric?
Ça va? Bah écoute, bien et toi?
Est-ce que tu as révisé tes cours de comment devenir un requin de la bourse?
T'inquiète, j'ai tout investi dans le Dogecoin vendredi. Je suis milliardaire.
Tu sais que, on va en parler, hein, mais tu sais que j'avais un ami, un ami saoudien qui m'avait envoyé 20 000 Dogecoin en genre 2011.
Oh mon Dieu.
Mais, et je n'ai aucune idée de où ils sont, évidemment. J'ai aucune idée du mot de passe de mon wallet. Enfin bon, j'avais 20 000, je crois que c'était 20 000 à l'époque où il valait genre 0,000.
Ouais,
bon, maintenant ça fait 600 euros, je doute que ça monte beaucoup plus haut. Mais
La semaine dernière, vendredi, c'était monté à 1250 euros, tes 20 000.
Je risque d'avoir potentiellement perdu beaucoup d'argent. Hein.
Moi, mais... j'en avais acheté il y a très longtemps pour 10 balles. J'en ai 2200.
Et tu les as toujours ?
2300. Et je les ai toujours. Et du coup, là, j'ai vu, j'ai failli les vendre quand c'était à 125 euros. C'était ridicule. Mais leur objectif, c'était de l'amener à 1 dollar. S'ils l'avaient amené à 1 dollar, écoute, j'avais 2200.
Tu te rends compte, j'aurais eu 20 000 euros.
Et alors, imagine dans tes
rêves. Il faut que j'aille fouiller dans mes disques durs.
Ouais. Et imagine dans les rêves les plus fous. S'il avait amené aux 38 000 dollars du Bitcoin, j'aurais 84 millions de dollars.
Tu
mais
sais...
bon, j'y suis pas.
Je crois que c'est à peu près autant aussi probable que le fait que les fluctuations quantiques créent devant tes yeux un chèque de 38 millions d'euros, tu vois, qui se matérialise devant toi. C'est à peu près aussi probable. Hein. Bon, on va parler de tout ça. Enfin non, on va surtout parler de Robinhood, de Wall Street Bets et de tout ça. On va parler du Facebook Oversight Board. Qui a rendu ses premières décisions, et vous allez voir que c'est hyper intéressant de les analyser. On va aussi parler des résultats d'Apple qui décidément défient toutes les prédictions. Et on va, avant de faire tout ça, évidemment remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission. Nommément, je vais mentionner Christophe Neulo, Chris Itella, Jupap, Yumi Kiwi, Nicolas Philippe, N2PA, Bruno W., Cacahuète, Uber, Potato Farmer et évidemment, aujourd'hui spécifiquement pour ce qui est des auditeurs patriotes producteurs, je voudrais remercier Shulrak qui est le producteur du jour, Shulrak dont le nom est l'un des seuls parmi tous les patriotes à être potentiellement un nom de l'univers de Conan le Barbare, parce que je trouve que Shulrak, ça a du peps, tu vois, c'est le genre de personne qui ne se ferait pas emmerder par Air/Wall Street Bets, tu vois, tu te dis, attends, qui est-ce qu'on va squeezer dans son short comme ils le font avec les fonds d'investissement. Et ils disent Shulrak, oula, attends, non, Shulrak, lui non, on va pas l'emmerder, il a l'air particulièrement badass. Donc merci à Shulrak d'être le producteur de cet épisode et merci à tous les patriotes de soutenir l'émission. Je vous remercie du fond du cœur de nous permettre d'exister. D'ailleurs, je le rementionnerai tout à l'heure. Si vous appréciez l'émission, vous pouvez aussi, que vous soyez patriote ou non, aller mettre un commentaire sur iTunes en particulier. Si vous aimez l'émission, ça serait hyper utile pour nous. Vous pouvez le faire maintenant pendant que vous êtes en train d'écouter. Mettez un commentaire et une petite note, ça serait cool. Je vais être très transparent avec nous. Il y a deux ou trois personnes qui sont allées mettre des commentaires du genre « Oh, ils parlent que de politique, c'est super chiant, je voudrais montrer qu'ils parlent d'iPhone ou d'Android, machin. Et évidemment, c'est un petit peu gênant parce que moi, je suis convaincu que la politique est importante. Et oui, on en parle beaucoup parce que c'est les sujets de la tech du moment. Donc, si vous pensez que ça a une certaine valeur, ça serait sympa de votre part d'aller mettre un commentaire, en particulier sur iTunes, mais pas que, dans l'application que vous utilisez pour écouter. Ça serait vraiment sympathique et vous pouvez le faire tout de suite. Merci à vous
tous.
Sinon,
on vous envoie Shulrock.
Écoute, Shulrock soutient déjà au niveau producteur. Je ne vais pas en plus lui demander d'aller faire
Shulrock qui va être occupé de ce qui est trop politique. Non, mais en vrai, je comprends ce qu'il veut dire, mais on est vraiment, parce que je joue à Cyberpunk beaucoup, on est vraiment presque dans ce monde-là, tu sais, des corpos qui influent des décisions politiques, Trump qui est censuré par Twitter, des os, pas des os, c'est tech et c'est politique. Et toutes ces sociétés-là qui ont autant que le PIB d'un petit État dégagé tous les trimestres, ça devient éminemment politique.
Bah oui, forcément, ça touche à tout, hein. C'est comme dire...
La vie de tous les jours.
On va parler d'Apple tout à l'heure. On se dit depuis des années, mais jusqu'où peut aller Apple ? Et on se rend compte que y a peut-être pas de limite, mais ils sont déjà tellement gros, ils grossissent comme certains diraient un ballon ou d'autres diraient un cancer dans la société, que ce soit Apple ou les autres, mais on va peut-être en parler un petit peu. Imaginez où ils pourraient grossir encore, et il n'y a pas vraiment de limite, ou en tout cas, on n'a pas posé de limite. On va parler d'autres domaines qu'ils pourraient encore explorer. Vous allez voir que il y a des choses qui pourraient pousser leur croissance encore plus haut. Bon, parlons d'abord, en tout cas, de ce premier sujet qui est pour le coup un petit peu politique, mais surtout économique. On va parler de Wall Street Bets et de cette histoire d'influence de l'action GameStop et des raisons pour lesquelles c'est un sujet aussi important. Je rappelle aux auditeurs, si vous ne l'avez pas suivi, si vous n'avez pas déjà écouté, que j'ai fait un épisode du Rendez-vous Tech il y a quelques jours de ça, en détaillant en 20-25 minutes toute l'affaire de Wall Street Bets et GameStop jusqu'à jeudi dernier. Et c'est vraiment un épisode qui est un petit peu différent, qui est un petit peu spécial, en supplément des autres épisodes que qu'on fait habituellement, les épisodes hebdo, où je prends, moi tout seul, le temps d'expliquer la nature de cette histoire. Donc, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Je vous encourage vraiment à aller écouter le Rendez-vous Tech 388, celui qui vient juste avant celui que vous écoutez en ce moment, pour comprendre tout ça. Si vous avez des doutes sur la nature de tout ça, je vais quand même résumer un tout petit peu, mais pour comprendre en profondeur, il faut aller à cet épisode-là. Donc, pour résumer un tout petit peu ce qui s'est passé, en gros, il faut déjà préciser, je vais faire en 2 minutes, hein. Qu'est-ce que c'est que shorter une action ? Ça veut dire emprunter une action à quelqu'un contre une petite somme, la vendre quand elle coûte très cher et attendre que le prix descende beaucoup et la racheter pour avoir gagné la différence en fait. On la rachète, on la rend à la personne à laquelle on l'a emprunté et on gagne la différence. Donc ça, c'est shorter une action et c'est un truc qui est peut-être un petit peu discutable d'un point de vue moral, mais qui est complètement légal. Et il y a plein de fonds d'investissement qui le font depuis longtemps, parfois en influençant un petit peu le marché en disant « moi, je pense que cette société ne vaut pas grand-chose ». Et tout à coup, l'action baisse et ils peuvent refaire leur somme. Reddit, et un subreddit en particulier, r/WallStreetBets, s'est rendu compte que dans le cadre de l'action GameStop, ils avaient tellement emprunté, les fonds d'investissement tellement emprunté d'actions qu'ils ne pouvaient pas toutes les racheter. Je passe les détails, mais en gros, ils avaient emprunté 140% d'actions, donc plus qu'il n'en existe. Et donc, Wall Street Bets s'est dit, avec l'action collective de l'Internet, s'est dit, on va faire monter l'action et on va acheter autant qu'on peut, et du coup, tous ces gens qui espèrent que l'action va baisser pour les racheter, ils vont être complètement dans la merde, parce que l'action va monter, donc ils vont perdre de l'argent. Et c'est ce qui s'est passé, à un niveau assez important pour que ça affecte la bourse et que ça fasse paniquer toutes les publications financières des États-Unis et même du monde entier, en tout cas du monde occidental. Et Wall Street Bets a tenu avec l'action de GameStop, donc cette société en particulier, et l'a fait monter à des niveaux vraiment stratosphériques. On parle d'un passage de $20 il y a 2 semaines à un plus haut qui était autour de $420, rien que par l'action de Wall Street Bets. Et Au-delà de ça, il y a eu plusieurs facteurs. D'une part, Wall Street Bets était dans cette optique un petit peu par vengeance par rapport à 2008 et la crise financière pour laquelle personne n'est allé en prison. Ils l'ont encore mauvaise et je crois qu'on peut les comprendre, on l'a tous un peu mauvaise. Et en plus de ça, il y a un autre facteur qui est le truc dont on va parler principalement, je pense, aujourd'hui, c'est l'application Robinhood et d'autres applications similaires qui permettent de faciliter la vente et l'achat d'actions de manière complètement... qui rendent ça totalement hyper facile, en fait, comme le font beaucoup d'applications et comme le fait la désintermédiation avec énormément de domaines. Bah là, c'est appliqué à la bourse. Et Robinhood et d'autres apps du genre vous permettent de vendre et d'acheter des actions hyper facilement. Là, c'est où on en était jeudi dernier. Donc là, j'arrive dans la partie un petit peu plus récente. Sur le week-end, Robinhood a arrêté l'autorisation d'achat et de vente d'actions. On a eu l'impression, et beaucoup de gens l'ont eu encore plus mauvaise, parce qu'ils se sont dit « Non, mais attendez une seconde.
Ouais, » Pourquoi est-ce qu'on a droit et nous, on nous limite, quoi, en fait.
Exactement, parce que les traders, ils ont évidemment toujours le droit d'acheter et de vendre. Et les petits gens normaux, les gens de Wall Street Bets et les gens de, bah, comme nous, qui ne sont pas des traders, et bah, qui utilisaient Robinhood, ils n'avaient plus le droit d'acheter parce que Robinhood a interrompu, et les autres aussi, hein, ont interrompu les achats et les ventes. En fait, il se trouve que, c'était hyper compliqué à comprendre, mais il semble que la raison pour laquelle Robinhood a interrompu, aujourd'hui, ils ont réactivé, mais à seulement 4 actions. Ils étaient d'abord à une action par personne achetable, et maintenant ils sont à 4. C'est qu'il y a ils doivent assurer une garantie financière à côté de chaque achat, et là ça devenait tellement gros qu'ils pouvaient pas, mais ils voulaient pas le dire comme ça parce qu'ils voulaient pas, je crois, hein, là c'est moi qui interprète, ils voulaient pas avoir l'air de pas pouvoir assurer financièrement. Ils ont dû emprunter genre 3 milliards de dollars, enfin, et au final ils ont réactivé le truc. Ça n'est peut-être pas techniquement pour empêcher les quidam d'influencer la bourse, ce qui est ironique d'ailleurs parce que Robinhood, c'est quand même on prend aux riches pour le donner aux pauvres, mais ils sont évidemment financés par des grosses sociétés, et les grosses sociétés continuent sans doute à jouer avec cette histoire, et shorter est encore plus intéressant maintenant que l'action est plus haut. Enfin, elle est redescendue à 120, mais ça reste une action qui n'a aucun rapport avec la valeur de la société. GameStop, oui, c'est une boîte qui...
tombé.
Voilà, c'est une boîte qui vend des jeux vidéo en physique avec des magasins, quoi. Forcément, ils ne sont pas en très grande forme, ni en général depuis des années, ni maintenant avec la pandémie. Donc, on en est à ce stade où Robinhood a rétabli une partie, dans une certaine mesure, l'achat et la vente d'actions. Le Sénat américain, enfin les commissions américaines qui s'occupent de ces choses-là commencent à s'en mêler, le Parlement aussi, et on ne sait pas très bien où ça va aller, ça semble se calmer. Cédric, j'imagine que toi tu t'es précipité pour acheter des actions GameStop, pour la mettre mauvaise au grand de ce monde, qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire ?
En fait, j'ai essentiellement découvert le principe de la vente à découvert. C'est en gros ce qu'ils pratiquaient. Hein.
C'est ça. Le nom en français, c'est la vente à découvert. C'est shorter une action, to short stock.
Vous l'avez pas. C'est ça. Vous l'avez pas. Par exemple, Patrick a une boîte de bonbons qui vaut 5 euros. Je lui prends sa boîte. Je vais la vendre. Je compte la racheter une fois qu'elle est tombée à 2 euros.
Et tu me la rends après.
Et je te la rends après, et du coup, je fais un petit bénéfice au passage de 3 euros.
Ouais.
Et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de vouloir la racheter à 2 euros, elle est passée à 400 euros. Et du coup, bah, si j'achète 400 et je lui rends, ça m'a coûté 395. Quoi.
C'est ça, exactement.
Donc, c'est ça la problématique. Et c'est, effectivement, ça m'a... c'est un peu aussi ce qui s'est passé avec Enron et d'autres. Hein. Mais en fait, c'est le principe de...
Bah, ceux qui ont vu The Big Short, qui n'ont pas oublié les détails du film et de la crise de 2008, savent de quoi il s'agit, ouais. Mais du coup...
C'est exactement ça. Et on pensait cette pratique terminée. Et en fait, pas du tout.
Bah non, elle n'est pas...
C'est monnaie courante,
après. Elle n'est pas terminée, hein. Non, elle n'est pas du tout terminée.
Les gens... non, bien sûr, bien sûr. Mais on pensait que d'ici 2008, les gens auraient appris. Ouais. Et en fait, non, les gens n'apprennent pas. Et donc, du coup, bah, là, ils ont voulu, tenter de mettre à genoux un fonds d'investissement, ce qui était plutôt le cas d'ailleurs, hein, puisque là, c'était plus possible pour eux.
Mais, il y a eu deux fonds qui ont dû...
GameStop.
Il y a eu deux fonds qui ont dû effectivement emprunter énormément d'argent, c'est Melvin Capital et Citron Capital, ouais. ce qui sont d'ailleurs... C'est marrant parce qu'ils ont l'impression d'avoir mis à genoux Wall Street, ce qui... Non ils ont mis à genoux deux fonds dont personne n'avait entendu parler, qui d'ailleurs, je pense, vont survivre. Mais il y a quand même une action collective qui est impressionnante. Et pour toi, c'est le peuple qui prend sa revanche sur Wall Street, ou on va pas jusque-là?
L'histoire aurait été belle si effectivement il y avait des conséquences derrière, mais là il n'y en a pas. Les deux fonds d'investissement vont serrer les fesses pendant quelques mois, et encore là ils peuvent faire une super OP de shortage, je pense, sur l'action GameStop elle-même.
Ouais.
Donc c'est juste qu'ils leur ont donné quelques sueurs froides un petit moment, mais l'action va retomber, GameStop fermera quand même, en fait. Ça a sauvé juste personne. Et je pense même que pour GameStop, c'est même... c'est horrible, mais un peu quand même. C'est-à-dire qu'on a joué avec leur valeur, en spéculant sur leur valeur, sur la valeur de la boîte, que ce soit le fonds d'investissement qui espère qu'elle baisse et qui fait tout pour en gros influencer la bourse en espérant qu'elle baisse. On le connaît, il y a différents leviers pour faire ça, du lobbying, etc. Mais surtout, en fait, pour les employés qui vont perdre l'emploi un jour, qui d'un coup se disent, comprennent pas pourquoi l'action monte énormément. Moi, dans la tête d'un employé de GameStop, je comprends plus ce qui se passe, en fait.
Ouais. S'ils avaient des actions, ils ont pu les vendre, mais c'est...
Qui a des actions Micromania?
C'est ça, GameStop, c'est Micromania.
Mais
moi, il y a un truc qui m'inquiète un petit peu quand même, et c'est un sentiment que j'ai vu que j'ai entendu ici et là, et c'est quand même un petit peu inquiétant de voir à quel point, je trouve que ce mouvement rappelle un peu d'autres mouvements. Là, c'est un mouvement qui est, je vais pas dire pour le bien, parce que la vengeance est belle, mais c'est quand même, ça a fait du bien à personne au final. C'est pas non plus se sont dit on va sauver les dauphins ou on va faire un truc pour le.
Mais ça a permis aux gens quand même de mettre sur la place publique des pratiques qui ont toujours cours et qui sont malheureusement.
J'ai l'impression que tu as l'impression que c'était un petit peu caché. C'est pas vrai. Le short, la vente à découvert, ça se peut pratiquer complètement.
Mais ce que je veux dire, c'est que là, on n'a parlé que de ça toute la semaine dernière. Personne n'en parlait avant. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui l'ont découvert avec ça. C'est pas tellement.
C'est pas faux.
Du coup, à moi cet avantage-là. L'autre truc un peu inquiétant, par contre, je trouve, le message en retour, c'est plutôt de se dire, effectivement, il y a des gens qui se permettent de jouer, en gros, avec la vie de société, la vie de gens. Alors, c'est pas nouveau, on vit pas dans le monde des bisounours. Mais que quand nous, on a envie de faire partie du club fermé, des gens qui jouent avec la bourse, les actions, qui parient sur la perte, la perte financière d'une boîte ou ce genre de choses, je dis pas qu'on nous en empêche, mais on a bien
certainement l'impression qu'on a.
L'impression qu'on a, c'est qu'en gros, on a un gâteau à partager, mais vous vous contenterez des miettes, en fait. Merci.
Ouais, et encore, et ça, encore. En fait. Et d'ailleurs, même...
Ça crée une vraie défiance, encore plus de défiance, je trouve.
Et même Robin Hood, en fait, la manière dont eux, ils font leur argent, c'est qu'ils vendent les informations aux grands fonds d'investissement. Certains ont des accords d'exclusivité sur ces informations. Et les fonds, donc, se font de l'argent en sachant ce que les gens vont acheter. Et sur une microseconde entre l'acte d'achat et la demande, il y a le spread, si j'ai bien compris. Et ils se font de l'argent à ce moment-là. Et donc, même ça, en fait, ça enrichit ceux qui sont déjà des gros. Bon, normalement, sur Robinhood, ça rend quand même service aux gens qui veulent faire ces achats, les gens normaux, entre guillemets. Mais c'est pas que on nique les grands au passage. C'est juste que c'est un truc qui arrange un petit peu tout le monde. Mais le mouvement de foule, moi, m'inquiète un tout petit peu parce que c'est un autre exemple encore de... Alors, en l'occurrence Reddit, d'ailleurs, c'est marrant... dans un chat sur Clubhouse, dont on va parler un petit peu tout à l'heure, le président de Reddit, Steve Huffman, a dit qu'ils suivent chaque jour le nombre de connards, je traduis le terme, le nombre de connards sur Reddit pour s'assurer que les choses ne dérapent pas trop. Et bon, en l'occurrence, j'imagine qu'ils ont gardé un œil sur Wall Street Bets très très sérieusement. Mais moi, ça m'a rappelé en fait la chasse aux sorcières qui a eu au moment de l'attaque terroriste à Boston pendant le marathon, tu te souviens? Et Reddit s'est dit, ok, on va trouver de qui il s'agit. Et ils sont mis à chasser dans toutes les informations, dans toutes les photos publiques, les trucs Instagram, les trucs... Et ils ont essayé de trouver quelqu'un. Bon, ça partait d'une bonne intention, ils n'ont pas trouvé quelqu'un. Ils ont même accusé à tort une personne qui n'avait rien demandé en se disant « Ah ouais, c'est lui, il ressemble au mec avec son sac à dos, etc. » Et c'est le genre de truc que je ne suis pas en train de dire « c'est il faudrait l'empêcher, c'est pas du tout ça. » Mais on se rend compte que c'est des trucs qui peuvent... partir.
Il faut pas que ça dépasse le cadre de la loi, en fait. Vous juste mais encadré par la loi.
C'est même pas une question de loi, c'est juste que ça part en cacahuète, ça peut partir en cacahuète, ça peut déraper très très vite, et c'est amplifié, en fait, par ce genre de mouvement. Et c'est un petit peu, je sais pas, c'est un truc qu'on maîtrise pas bien, et là, il se trouve que au final, personne va vraiment être... comment dire, hurt, que personne ne va avoir de gros problèmes. Encore que, si certains redditeurs ont mis toutes leurs économies dans l'action GameStop quand elle était à $200 et qu'ils n'ont pas vendu quand elle était à 400 parce que tout le monde disait hold, on va les niquer, bah, eux, ils risquent de perdre leur maison, quoi. Mais peut-être que tout le monde a acheté, genre, juste 10 actions avec de l'argent dont ils n'avaient pas besoin et que ça ira.
Tu n'as pas le volume.
Ouais. Mais je sais pas, moi le mouvement, le truc, ça m'inquiète un petit peu. À côté de ça, les vierges effarouchées de Wall Street qui attrapent leurs perles, tu sais, on dit en anglais they clutch their pearls, c'est genre oh, mais les barbares sont en train de chambouler oui. notre système. Et c'est genre c'est bon, attends, le système, c'est vous qui jouez avec le feu. À un moment, c'est normal qu'on ait le droit de faire d'utiliser les mêmes choses, les mêmes systèmes que vous, quoi. Mais bon.
Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça.
Ouais.
Ouais. C'est le problème, c'est que c'est complètement décorrélé de la valeur des entreprises. Et
ouais.
C'est et ça, pour ça quand on parle des capitalisations boursières, tu vois, avec quand on parle d'Apple, de Facebook, de Microsoft, de, on ne sait pas si, enfin, il y a forcément de la spéculation dans ce truc-là. Alors c'est beaucoup plus facile de faire des gros leviers sur des petites actions de petites sociétés. On est capable de faire augmenter de 400%, parce que là, je te souhaite bon courage, tu veux faire monter de 400% mmh. l'action Apple. Hein.
C'est sûr que c'est pas... Mais bon, Apple, c'est vraiment exceptionnel. Je
Bien
pense
sûr.
Pas que...
Donc du coup, c'est plus trop possible, mais mmh. dans les faits, le problème, c'est que ça reflète pas vraiment la valeur de...
Bien sûr. Ça a toujours... J'ai entendu une analogie que j'ai trouvée intéressante, c'était quelqu'un qui disait, mais maintenant, l'action GameStop, c'est comme du Bitcoin. Ça n'a plus aucun rapport avec la valeur de la boîte, encore plus que des trucs comme Apple, ou parce qu'on va le voir tout à l'heure, il y a quand même des fondamentaux qui comptent, même s'ils sont amplifiés. Là, ça n'a vraiment aucun rapport. Et donc, quelqu'un disait, bah, c'est comme du Bitcoin. Ça peut monter à 1 000 $, 20 000 $, on n'en sait rien. Bon, il se trouve que là, la bulle semble être en train d'éclater, mais si ça se trouve, c'est parce que Robinhood a limité le nombre d'achats. Et quand ils se démerderont pour avoir moins de restrictions dans une semaine, eh ben, le truc va remonter, ou peut-être qu'ils vont se concentrer sur AMC ou sur BlackBerry ou sur Nokia, comme ils ont commencé à le faire. Enfin, c'est... Et on dit dans la chatroom, oui, tout ça, cet argent sert à personne, de toute façon, sauf aux fonds de pension américains. Alors, je ne pense pas que Melvin Capital et Citron aient été des fonds de pension. Ils sont un petit peu trop petits pour ça, je crois, mais ce n'est pas rien, les fonds de pension. C'est la retraite d'Américains, en l'occurrence, mais il y a plein de fonds de pension. Je ne pense pas que les fonds de pension se mettent à shorter des actions, à vendre à découvert, parce que, justement, les fonds de pension, c'est des trucs... très très sûr. Mais les fonds de pension, ça rigole pas, quoi. C'est des trucs qui sont... Et ça a eu une influence, d'ailleurs, on dit ça n'a fait de mal à personne, ça a eu une influence sur d'autres actions en bourse, parce que pour combler leurs pertes, il y a... et pour prêter de l'argent à ces fonds, il y a plein de fonds qui ont vendu des actions sûres, genre Apple, et pour pouvoir prêter de l'argent à ces fonds-là. Donc l'action Apple a, à cause de ça, baissé, ou elle n'a pas atteint le niveau qu'elle aurait pu atteindre avec les annonces de résultats incroyables d'il y a quelques jours. Enfin, on peut spéculer là-dessus. Bref, je...
C'est
sais
le mouvement
pas
de foule qui te fait peur, et je comprends. T'as peur du Capitol Bis, mais à Wall Street.
Bah, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que, à mon avis, le parallèle, je dis pas que c'est la même chose, le parallèle, d'ailleurs, il y a eu des accusations d'antisémitisme et de propos pas hyper glorieux dans Wall Street Bets. Et un serveur Discord de Wall Street Bets a été fermé pour cette raison. Ils en ont rouvert un autre ensuite avec plus de modération. Mais en gros, le parallèle entre le Capitole le 6 janvier et Wall Street Bets, je dis pas que je vais le faire, mais je trouve qu'il y a des similarités dans l'emballement qui... C'est pas que je les trouve inquiétants, mais je les note. Voilà, je note la chose. La conclusion de cette histoire, c'est qu'il y a déjà deux films qui sont à préparation sur ce sujet. Comme je le disais dans l'émission d'il y a quelques jours, je disais j'ai hâte de voir le film. Et bah, il y en a déjà deux en préparation. Exactement. Voilà. Mais c'est passionnant. Moi, je suis convaincu que ça pourrait donner quelque chose, un film vraiment de qualité, quoi.
C'est ça. Ça va s'appeler La Casa des Video Games.
La casa de Reddit.
La casa de Reddit, c'est ça, ouais.
Bon, on va parler de plein d'autres choses encore, mais entre-temps, j'aimerais vous parler de Patreon. Et Patreon, ça, c'est une valeur sûre, parce que vous investissez dans Patrick. Non, vous n'investissez pas du tout, en fait. C'est juste que vous payez Patrick parce que vous vous dites il fait quelque chose. Pardon ?
Il va falloir faire un hold.
Mais c'est ça. C'est pas un investissement. Vous n'en retirerez aucun bénéfice physique.
Non, c'est faux. Physique.
Mais attends, physique. Mais par contre, la satisfaction intellectuelle, l'enrichissement philosophique, moral que vous retirerez de cet investissement financier est tel que, bon, franchement, je pense que ça vaut la peine. Plus sérieusement, c'est vrai que c'est un moyen de soutenir l'émission. Bah, l'émission, elle est disponible gratuitement. Et d'ailleurs, il y a une partie des revenus qui sont générés par la pub, mais c'est une petite partie. La majorité, c'est toujours le soutien participatif. Et donc, évidemment qu'il est important, ce soutien participatif. Et c'est un soutien qui est totalement optionnel. C'est vous qui choisissez de le faire ou non. Et si vous appréciez l'émission, si on vous apporte quelque chose, que ça soit des informations, des analyses ou même du fun, si vous êtes content de retrouver l'émission quand elle arrive dans votre app de podcast tous les mardis ou tous les mercredis matin quand vous allez au boulot, quand vous faites votre sport parce que vous restez chez vous et que vous pouvez pas aller au boulot, eh ben peut-être que vous vous diriez vous savez quoi, c'est un type sympa, Patrick. Je pense que ce qu'il produit a une certaine valeur, ça demande beaucoup de travail. Eh ben, je vais rétribuer son travail avec ce système de Patreon sur patreon.com/rdvtech. Et non seulement vous pouvez contribuer à l'émission, mais en plus de ça, vous avez, en plus de ça, et des rétributions morale que vous avez pour vous, vous avez des contreparties tangibles, comme par exemple le fait d'avoir des épisodes sans pub, sans ces petites parties promo au milieu. Vous avez des éditos en plus des épisodes normaux, des éditos spéciaux où je vous fais passer un petit peu de l'autre côté du micro. Vous avez également les time codes dans les épisodes. Enfin, il y a plein de petits bonus qui sont accessibles dès le niveau de soutien à 1 $, enfin à 1 €, parce que vous pouvez bien sûr payer en euros maintenant. Donc, dès le niveau de soutien à 1 € par épisode, vous pouvez accéder à tous ces bonus. Je vous encourage vraiment à aller voir sur patreon.com/rdvtech de quoi il en retourne. Le lien est dans les notes de l'émission, donc vous pouvez aller voir ça tout de suite là et voir comment ça fonctionne. Ou alors, quand vous revenez chez vous et que vous mettez les clés dans le bol, comme toujours, vous le savez, dites-le avec moi, ça fait 3, 2, 1, cling, Patrick
cling.
C'est ça, ça fait cling et vous dites, ah, oh, Patrick, il faut que je pense à Patrick, allons voir ce que c'est que cette histoire de patreon.com/rdvtech, et merci à tous ceux qui le font déjà.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
PJ demande dans la chatroom, est-ce qu'on peut soutenir l'émission avec des actions GameStop? Écoute, tant qu'à faire, actions, pourquoi pas, mais peut-être des actions Apple. Je sais qu'elles sont très hautes en ce moment et qu'elles auront du mal à monter encore, mais je crois plus sur le fait qu'elles monteront plutôt que GameStop, parce que je crois que GameStop, c'est un peu foutu. Hein. Bon, parlons un petit peu du Facebook Oversight Board, qui a rendu ses premières décisions. C'est un gros morceau aussi, hein. Le Facebook oui. Oversight Board, c'est un comité de surveillance créé par Facebook pour rendre des avis sur ses décisions de modération, essentiellement. Et ils ont pris 5 cas sur lesquels ils ont rendu des décisions. C'est la première fois qu'ils le font. Ils ont été formés il y a plusieurs mois de ça. Je vais vous dire rapidement les 5 cas dont qu'ils ont traité. Le premier, c'était un cas qui avait eu lieu au Myanmar où quelqu'un avait insulté les communautés musulmanes en disant qu'ils étaient psychologiquement inférieurs. Ce cas a été censuré, enfin cette action, cette update a été censurée par Facebook, ils l'ont supprimé, le board l'a rétabli. Deuxième cas, un utilisateur a décrit les Azerbaïdjanais, je crois que c'est les Azerbaïdjanais, en les insultant et en utilisant des insultes racistes. Là, le board a soutenu Facebook dans la suppression du contenu. Troisième cas, un cas de nudité, c'est le cas des saints, dans l'illustration du concert du saint, où Facebook avait d'abord supprimé l'image, puis l'avait rétablie, en disant qu'ils avaient eu tort de la supprimer. Le board a confirmé qu'ils n'auraient pas dû la supprimer, mais en plus de ça, ils ont dit quelque chose d'intéressant. Ils ont dit « Facebook ne peut pas rétablir, inverser sa décision et du coup éviter de passer par le board ». Il faut que Facebook, s'arroge le droit de commenter les décisions de modération de Facebook, même quand ils changent d'avis. Et donc, ils ne peuvent pas se défiler en changeant d'avis au dernier moment s'ils se rendent compte qu'ils ont fait une connerie. D'une manière générale, le board a été assez violent avec Facebook, hein, assez violent. Alors, oui, on pourra en parler dans une seconde, mais c'est vraiment, je te mets le coup de hache sur la tête, hein. Peut-être pas sur la tête, mais un bon coup de marteau dans le bras.
Peut-être pas dans la tête, mais dans la nuque.
Presque. Quatrième cas, c'était une citation de Goebbels, une citation de propagande nazie que l'utilisateur voulait montrer comme, en fait, montrant la cruauté de la chose. Facebook l'avait supprimé parce que Goebbels est sur la liste des gens des Voldemort, en fait, qu'on ne peut pas mentionner sur le site, à moins de...
Tu vas être ban sur Twitch, on ne peut pas pouvoir le mentionner.
Et sur Twitch, ça va encore. Je crois qu'ils sont un petit peu plus permissifs avec ce genre de choses, malheureusement, peut-être. Mais donc, si on ne met pas le contexte ou si on ne dit pas spécifiquement que c'est pas bien d'être nazi, eh ben on n'a pas le droit d'utiliser ce genre de citation. Là encore, le board a dit, mais non, là, c'était pas légitime de supprimer ce poste. Et le dernier, c'était un utilisateur français qui avait dit qu'il y avait, c'était il y a des mois de ça, qu'il y avait des remèdes au Covid-19. J'imagine qu'il parlait de chloroxyne, chloroflicine. Il disait qu'il y a oxychloroquine, merci, qu'il y a des remèdes et que le gouvernement français nous le cache. Là encore, Facebook avait supprimé le poste et le board a dit non, de toute façon, ce dont il parlait n'est pas disponible, ça n'existe pas sur le marché et donc il y avait pas de danger immédiat à la population qui essaierait de se soigner par ça. Donc c'était une mauvaise décision de Facebook. Donc sur les 5 cas qu'ils ont pris en compte, ils ont 4 fois décidé que Facebook avait eu tort de supprimer un contenu pour des raisons de liberté d'expression. Ils ont, en plus de ça, critiqué Facebook pour l'opacité de leurs règles. Ils ont dit qu'elles changeaient tout le temps et qu'elles n'étaient publiées que sur le Facebook Newsroom, qui est une partie du site, mais qu'elle n'était pas reflétée dans les conditions d'utilisation. Ils ont dit que de toute façon, il était très difficile de comprendre ce que Facebook disait, en particulier quand il supprimait une mise à jour qu'on avait fait, la personne qui a vu sa mise à jour supprimée ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas assez de clarté dans la suppression.
Et le motif,
et,
ouais.
Et plein de critiques de ce type. Ils ont vraiment étrié Facebook du côté de la liberté d'expression. Et là où c'est vraiment intéressant, et ça fait un petit peu écho à ce qu'on disait dans l'épisode précédent, je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui auraient dit à Facebook « censure trop » et qui, en voyant... Et d'autres personnes, il y a plein d'autres personnes qui, en voyant ces décisions du board, va se dire au contraire, oula, mais ils ont autorisé Goebbels sur le site, ils ont autorisé la propagande pseudo-scientifique ou anti-scientifique en France, ils ont autorisé des insultes racistes, parce que dans l'un des cas de racisme, ils ont dit non, là, effectivement, c'était raciste, mais dans l'autre, ils ont dit bah non, ça, c'est pas assez raciste pour être qualifié. Donc, et en plus, il parle beaucoup dans le board de questions de droit international et de droit local. Et ils disent, en fait, il n'y a pas de standard international. Il faut toujours examiner le contexte culturel et local, pour prendre ses décisions. Et Facebook n'a pas la, ne s'est pas donné les moyens de faire ça. En gros, vraiment, il tape sur la tête de Facebook quasiment à chaque décision, et pas juste pour les décisions individuelles, mais pour les principes de fonctionnement de Facebook. Et d'ailleurs, Facebook a dit « Ok, on est censé implémenter les recommandations en 30 jours, mais là, va falloir qu'on réfléchisse, quoi. » Tu vois, c'était... Moi, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça soit aussi violent.
Ouais, c'est clair. Moi non plus. Mais en même temps, je me dis que finalement... ça donne aussi sa légitimité à cette instance qui a été créée à la demande de Facebook. Je crois que dedans, il y a d'ailleurs une ministre du Danemark, ou je ne sais plus ce que c'était.
Alors, il y a effectivement, il y a aujourd'hui, je crois, 40 membres du board. Chaque cas est passé en revue par 5 personnes, un petit comité de 5 personnes qui rend ses décisions au board général, et le board général les discute ensuite. Il y a des gens qui viennent de plein de domaines, juristes, éthiques, journalistes, et de différents pays. Alors, je ne sais pas à quel point ils sont allés dans tous les pays du monde, mais effectivement, ce n'est pas que des Américains, ouais. Et la grande question, c'était, est-ce qu'ils vont être aux ordres ? Bien sûr, mais ils sont censés être indépendants, est-ce qu'ils vont vraiment l'être ? En tout cas, là, c'est une première indication que oui, comme
ça
tu
montre,
dis...
Pour moi, ça montre une indication qu'effectivement, ils sont totalement indépendants. Après, j'avoue que ça me choque un peu, certaines décisions, mais parce que, je sais pas, j'aurais considéré que Facebook était dans son bon droit, en particulier sur l'automédication à base d'hydroxychloroquine et autres.
Alors, je ne sais pas si c'est spécifiquement l'hydroxychloroquine dont il parle.
Non, mais en vrai, il y avait... mais en même temps, tout cet épisode-là a contribué à faire circuler énormément de la fake news, j'en peux plus. Et ça contribue énormément à rendre les choses compliquées, plus savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, qui a raison, qui a tort, enfin bref. Et se contenter... En fait, je suis pris aussi entre deux feux, hein, c'est-à-dire... se contenter de la parole d'État officielle, c'est ma position, c'est de dire je considère que je vis dans un État démocratique et républicain qui fait en sorte qu'il pense d'abord à mon bien-être sans me cacher des choses, tu vois, on n'est pas en Chine.
Ouais, bah, disons que ce soit le cas ou pas, il est toujours bon d'avoir des contre-pouvoirs.
Je suis d'accord. Mais quand il est prouvé de façon scientifique, ou plutôt non prouvée de façon scientifique, l'efficacité d'un remède, que les gens contribuent en disant, que les gens disent, en gros, on nous ment, regardez, il existe des remèdes sans apporter la preuve que ces remèdes fonctionnent. Moi, au-delà de l'automédication, ce qui m'embête le plus, c'est plutôt le fait de partager n'importe quoi. En disant manger de la terre, vous allez voir, ça vous protège du Covid, c'est plein de minéraux essentiels. Le gouvernement nous ment, je comprendrais qu'on censure mon poste, en fait.
Bah, tu vois, c'est ça qui est surprenant avec les décisions du board, c'est qu'ils se sont très clairement mis dans la protection de la liberté d'expression à un niveau qui est un petit peu extrême, qui était peut-être celui qu'avaient les réseaux sociaux il y a trois ans ou deux ans même, ou peut-être même un an, ça a beaucoup changé ces derniers temps, mais ils sont mis un petit peu dans cette position. Mais là, on ne peut plus reprocher vraiment à Facebook de prendre les décisions eux-mêmes, c'était leur but. Est-ce qu'ils vont implémenter les choses? On ne sait pas. Mais une autre chose qui est intéressante, c'est qu'ils vont devoir décider de...
Trump a gagné les élections, quoi, enfin, je veux dire...
Bah, c'est exactement ça. Le board a été saisi de la déplatformisation de Donald Trump. Ce qui veut dire qu'ils vont devoir rendre une décision là-dessus. Peut-être qu'ils ont été durs sur les décisions d'avant pour que s'ils sont d'accord avec Facebook sur celle-là, on ne puisse pas leur reprocher qu'ils soient toujours aux ordres et qu'ils soient toujours d'accord avec toutes les décisions de Facebook. Je ne sais pas, mais... Bon, en tout cas... Je ne sais pas quoi faire de toutes ces décisions qui ont été prises, mais ce qui est sûr, c'est que je ne voyais pas le board aller dans cette direction-là. On verra la suite. Ouais.
C'est vous qui pensez qu'il confirmerait les décisions de Facebook, prises par Facebook. Et là, ce n'est pas le cas. Et je suis étonné. Et d'ailleurs, c'est là où c'est encore plus étonnant quand on voit ce qui se passe en Birmanie ou au Myanmar. C'est un peu les deux faces de la même pièce, avec le coup d'État, avec l'extermination par les militaires, l'extermination.
Bah oui. Enfin,
ils martyrisent les populations musulmanes du pays. Enfin bon, ça fait complètement écho à la citation du dirigeant. Je sais plus ce que c'était, mais c'était un général, un militaire ou un ministre qui avait dit ça en fait, qui avait dit en gros que les musulmans étaient intellectuellement, psychologiquement inférieurs. Et quand aujourd'hui on voit qu'il y a ce coup d'État, que la junte militaire reprend la main sur tout ça et qu'on sait comment ça va se finir, je ne sais pas. Enfin, moi, je trouve que c'est...
Je crois que...
C'est légitimer en même temps le discours. Enfin, je ne sais pas.
Hashtag pas de solution. À chaque fois quelqu'un... En fait, c'est ça qui ressort et on va avancer. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit « Ah bah oui, il suffit de faire ça », tu peux démontrer par A plus B qu'il y a des cas très clairs, pas des cas théoriques, hypothétiques, uniques et rares, mais des cas très clairs, fréquents, où ça ne marche pas. Donc, à voir. En tout cas, décision du board surprenante. Facebook, encore eux, sont en train de commencer une guerre ouverte avec Apple sur la question de la publicité. En fait, les nouvelles implémentations d'Apple, les nouvelles fonctionnalités d'Apple sur la vie privée, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont empêcher les applications de traquer votre activité et de donner cette activité à des applications tierces si vous le décidez, ou à moins que vous ne l'autorisiez. Et les experts estiment que Facebook est la première société qui va souffrir de cette décision, puisque eux ne recevront moins de données d'applications tierces. Et il faut activement aller activer la chose dans chaque application pour autoriser le partage. Évidemment, selon les estimations, très peu de gens vont l'activer. C'est entre, je crois, 7 et 10% ou 10 et 15%, quelque chose comme ça, selon les estimations, qui vont le faire. Et Facebook serait en train de préparer un procès véritablement contre Apple pour abus de position dominante et abus de monopole. C'est marrant quand même parce que, vous savez, quand ça a commencé cette histoire, je prenais l'image de Godzilla et de Mothra qui se battent dans la ville de Tokyo et qui chacun disent « Nous, on est en train de protéger les gens normaux, mais nous, on regarde les géants en train de se taper les uns sur les autres. » Donc, il y a ça d'une part. Les outils de visibilité de vie privée, vous savez, les labels vie privée, ont été implémentés sur l'App Store. Il y en a beaucoup qui sont mal implémentés et Apple ne les vérifie pas. Donc, c'est uniquement les développeurs d'applications qui doivent donner les informations. J'ai vu beaucoup de gens critiquer la chose, dire genre « Ah ouais, mais Apple devrait vérifier ». Non, ils ne peuvent pas tout vérifier, mais au moins le fait qu'on ait... Noir sur blanc, ces informations.
Google, ils vont les vérifier.
Bah oui, exactement.
Google, ils vont les vérifier.
C'est pour les grosses sociétés, ça sera vérifié. Et puis même, il y a des gens qui sont allés commencer à vérifier sur d'autres de petites sociétés. Au moins, on le voit. Donc, je pense que c'est bénéfique. D'ailleurs, c'est marrant parce que l'un des exemples de la puissance de la chose, bah, c'est tout simplement WhatsApp. Quand on a commencé à voir, quand Facebook a dû dire que WhatsApp allait partager les données avec Facebook, on a vu un exode vers Signal et Telegram, et surtout Signal d'ailleurs. Donc, ça a une puissance.
Il y a plus marrant que ça. C'est plutôt Google qui dit... Ah ben nous, on va finalement abandonner complètement le système de tracking. On va réfléchir à une autre solution. Et pour pouvoir. Et en fait, Google, c'est assez particulier parce que Google ne veut pas demander à l'utilisateur l'autorisation. Et d'ailleurs, les applications, si vous regardez sur votre téléphone iOS, elles ne sont plus à jour depuis fin décembre.
Toujours pas,
YouTube, que ce soit Apple Maps et tout ça. Et en fait, elles vont l'être dans quelques jours. Google Maps, pardon. Elles vont l'être dans quelques jours. Sauf que, bah, ils auront fait disparaître tout ce système de tracking et de partage de données des applications pour, et d'un, ne pas l'afficher dans le store, et de deux, ne pas demander à l'utilisateur. Parce que c'est un coup à perdre confiance dans les produits aussi Google. Eux, c'est une histoire d'image, en fait, Google. C'est pas uniquement une histoire de business, parce que c'en est une, hein, mais c'est aussi une histoire d'image. Ils ont une image à préserver, que ce soit sur YouTube, que ce soit... ils vendent des téléphones, ils vendent des devices, ils vendent tout un tas de choses. Si la confiance venait à s'effondrer totalement parce que on met face aux gens, on leur demande en gros, est-ce que tu veux vraiment partager tes données les plus intimes avec Google, y compris tes messages, tes contacts, tout ce que tu dis, tout ce que ton Google Home entend et tout ça, les gens vont par défaut dire non et vont dire mais qu'est-ce que c'est cette société qui m'espionne en fait.
Ouais, ça amènera de manière Google, très même si on le sait, ça le montrera de manière très concrète à tous les utilisateurs et oui.
Voilà, et là du coup, là ce qui est incroyable du coup, c'est que si vous êtes dans l'écosystème Android, vous continuerez à être traqué. Si vous êtes dans l'écosystème Apple, vous ne serez plus traqué. Et ça crée une vraie disparité. En termes de vie privée, pour le coup, ça légitime la stratégie d'Apple de dire ce qui est dans l'iPhone reste sur l'iPhone, même si on sait que ce n'est pas tout à fait vrai, mais ce n'est pas grave.
Un petit peu plus qu'ailleurs, quoi.
Plus qu'ailleurs. Et ça fait un vrai argument commercial. Et c'est ça qui est dingue.
Mais c'est marrant parce que...
Voir comment Apple les a fait plier, c'est incroyable.
C'est intéressant parce que Google et Facebook, en fait, ce n'est pas spécifiquement dans leurs apps que c'est important de le faire. Bien sûr, c'est important, mais ce n'est pas spécifiquement dans leurs apps. Eux, ils veulent les données que d'autres applications vont partager avec eux. Et donc, s'ils retirent ce genre de choses de leurs apps à eux, chez Google, ça ne va pas changer la face du monde parce qu'ils peuvent traquer. Ça concerne, peut-être qu'on ne l'a pas dit assez clairement, ça concerne très spécifiquement les données qui sont envoyées à des sociétés tierces. À des acteurs tiers. Donc, dans l'app, l'application elle-même n'a pas besoin de vous demander votre autorisation pour utiliser vos données pour son fonctionnement à elle ou même pour faire de la publicité elle-même. Par contre, si elle va envoyer vos données à Google, là, elle va avoir besoin de vous demander votre consentement. Et de la même manière, pour utiliser Google pour faire de la pub dans l'app elle-même. Donc, c'est ces acteurs-là qui doivent pouvoir continuer à envoyer et recevoir les données de Facebook et Google pour que Google et Facebook continuent à faire de l'argent de cette manière. Mais dans leurs applications elles-mêmes, et ça, c'est peut-être un truc que je n'avais pas assez bien expliqué, dans leurs applications elles-mêmes, en fait, et peut-être même pas assez bien compris, c'est moins important dans leurs applications elles-mêmes, c'est beaucoup moins important que dans les applications des autres. Donc, ils se battent en fait pour que l'écosystème reste tel qu'il est, pas tellement pour que leurs applications elles-mêmes n'aient pas besoin de poser la question parce qu'ils s'en foutent. Google, de toute façon, ils ont votre donnée. La question, oui, c'est avec les autres. Et d'ailleurs...
La question, c'est le partager avec les autres et le vendre. Et c'est le business total de Facebook, en
complètement,
fait.
Complètement, oui. Complètement. Bon, ceci dit, Facebook aura quand même sans les données des autres, beaucoup de données sur vous de toute façon. Hein. C'est pour ça que les estimations donnent environ 7%, je crois 7 à 10% de réduction de revenus, ce qui est quand même beaucoup, hein, sur ces utilisateurs-là pour Facebook et pas un effondrement total. Mais ça fait une réduction de, moins de 10%, on va dire. Et d'ailleurs, il y a une autre initiative qui est le Global Privacy Control. Vous vous souvenez de 12 Do Not Track, c'était une option qu'on aurait dû pouvoir cliquer et donc que certains navigateurs avaient implémenté, Do Not Track, pour qu'on ne nous traque pas. Et bien là, suite au RGPD et surtout à la loi sur la vie privée californienne, qui est beaucoup inspirée du RGPD justement, Google et d'autres...
Pour que le RGPD, qu'il y ait un RGPD américain.
Ouais, bah ils l'ont déjà en Californie d'ailleurs. Et donc ils sont en train d'implémenter. Il y a un groupe de travail dont Google fait partie qui est en train d'implémenter le Global Privacy Control, qui est en fait en gros un Do Not Track général qui serait un standard que tout le monde utiliserait. Donc on pourrait choisir de Do Not Track, ça serait. Et là encore, il y a bien sûr les réglementations, mais je pense que Apple joue aussi là-dedans. Donc peut-être qu'il y aura un système général pour dire. Moi, je ne veux pas qu'on me traque et on pourra mettre des exceptions pour tel ou tel site, mais c'est des trucs qui sont déjà mis en place avec des privacy badgers ou des ad blockers ou ce genre de choses. Eh bien, ça serait une version plus clean, plus policée, plus acceptable pour tout le monde, mais c'est intéressant de voir que des groupes sont en train de travailler là-dessus. Et on en arrive aux revenus. Alors, je vous parlais de Godzilla et Mothra et King Ghidorah. Facebook, sur le dernier trimestre, a fait presque 30 milliards de revenus, avec une augmentation de 33% d'une année sur l'autre, sur le dernier trimestre. 1,84 milliard d'activités d'utilisateurs quotidiens. Ça aussi, c'est 11% de plus que l'année dernière. Donc, Facebook... Ça va pour eux, hein, à peu près. Et dans le domaine, on a Apple également. Accrochez-vous à vos slips. Apple a des revenus sur le trimestre en question également d'environ 30 milliards de dollars. Ils avaient fait 22 milliards l'année dernière, donc on est dans le même genre de proportion que Facebook. Et on a, enfin, comment dire, je vous ai dit les revenus, c'était des 30 milliards de dollars. Je me suis trompé. C'est pas les revenus. Les revenus, c'est 111 milliards de dollars.
C'est ça.
Les revenus, c'est... Donc, les bénéfices, c'est 30 milliards. Donc, ils ont fait autant en bénéfices que Facebook a fait en revenus. Ils ont 65%, c'est sur le dernier trimestre uniquement, hein, le trimestre octobre, novembre, décembre, si je ne m'abuse. 65 milliards viennent des iPhones, 56 milliards l'année dernière, environ 9 milliards des Mac, et 15 milliards, presque 16, pour les services. Rien que pour les services, on a presque 16 milliards. Et ils sont en augmentation constante depuis des années, les revenus des services.
Fitness Plus et tout, Apple Music.
Je crois que les services incluent aussi les wearables, donc l'Apple Watch.
Ouais, ça doit inclure aussi Apple Cards, l'argent qu'ils doivent faire dessus.
C'est ça, ouais, exactement. Voilà. Et le truc, c'est que ils sont, je sais même plus à combien ils sont, 2,3 billions de dollars de capitalisation boursière. Enfin, ils vendent de tout. Ils vendent plus de téléphones, plus de montres, plus de services, plus d'iPad. Ils ont même vendu 40% plus d'iPad que sur le même trimestre de l'année dernière. Donc même sur les tablettes, qui sont un petit business pour eux, hein, ils ont vendu, je crois que j'ai entendu un chiffre, vous me corrigerez dans les commentaires si je me trompe, mais ils vendent aujourd'hui, rien que pour les services, autant en volume, en total financier, en somme d'argent, que tous les iPhones en 2012. Vous savez, quand Steve Jobs est mort, on se dit « Ah ouais, mais Tim Cook, qu'est-ce qu'il va réussir à faire ceci, à faire cela ?» Mais c'est un magicien, Tim Cook. Et non seulement il est un magicien de la logistique, mais il a pris clairement les bonnes décisions pour... parce que je crois qu'on n'est plus à une étape où c'est genre, ouais, Apple, ils font des trucs, les gens achètent, mais alors que c'est pas bien et c'est de la merde. Alors, on peut aimer ou pas aimer, hein, bien sûr. Mais clairement, c'est un succès à tous les niveaux qui est indéniable. Qui a fait augmenter, non seulement, on parlait de cours de bourse qui est décorrélé de la valeur réelle de l'entreprise tout à l'heure. Je ne sais pas si on est vraiment dans une adéquation totale, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a derrière le, le cours de l'action d'Apple quelque chose de très concret. Il y a des ventes, il y a des, un écosystème qui se construit, il y a des performances dans tous les domaines. Et si on regarde un petit peu vers le futur, on a là encore des choses qui continuent à être enthousiasmantes, ou en tout cas à avoir du potentiel. Par exemple, on a évidemment les montres qui continuent à faire de plus en plus. Il y a des rumeurs selon lesquelles elles pourraient avoir un capteur qui détecterait le taux de sucre dans le sang, ce qui pour le diabète serait évidemment révolutionnaire. Même si ce n'est pas aussi précis qu'autre chose, ça peut aider. Il y a le M1, le processeur d'Apple qui a surpris tout le monde et qui va transformer le business d'Apple et donner encore plus de possibilités à la société dans plus de domaines que juste les Mac. Mais on a aussi le travail qu'ils font sur les casques de réalité augmentée et de réalité virtuelle qui n'ont jamais vraiment décollé jusque-là. Mais Dieu sait que ce que sait faire Apple, c'est de prendre des domaines qui étaient un petit peu excitants technologiquement, mais qui n'avaient pas d'application, d'application concrète.
Rappelez-vous de Ping, le réseau social révolutionnaire autour de la musique. Bon, merci.
Ils sont aussi ratés une ou deux fois, hein,
ouais,
il faut l'avouer.
Ouais, ça peut arriver, quoi.
Mais tu vois, les lecteurs de MP3, il y en avait depuis longtemps.
Oui, bien sûr.
Des magasins en ligne de MP3, il y en avait depuis longtemps. Des tablettes, il y en avait depuis longtemps. Enfin, c'est toute l'histoire d'Apple. Il y avait des trucs comme ça qui existaient depuis longtemps. Eux, ils arrivent et ils réussissent à le faire. Alors, je ne sais pas si ça sera le cas pour la réalité augmentée, la réalité virtuelle, mais il y a ça aussi qui est un marché énorme potentiellement. Et puis, il y a la voiture qui continue à être une rumeur et sur laquelle ils travaillent. Alors, là encore, on ne sait pas si ça va se produire, mais il y a un potentiel d'aller encore plus loin. Les téléphones pliables pour garder la vie enfin, l'iPhone, l'évolution de l'iPhone sur le long terme et peut-être même d'autres appareils. Enfin, je me souviens qu'il y a quelques années encore, quand je parlais d'Apple, il y avait des gens qui me disaient, et j'en parle de temps en temps, des gens qui disaient « Ah, Apple, c'est chiant, machin, on parle tout le temps ». Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens, et je le disais il y a quelques épisodes, les gens ne sont plus dans cette optique parce qu'ils ont réussi à convaincre tout le monde. Évidemment, on peut être pour ou contre, il y a des problèmes avec des questions de monopole sur l'App Store, de position dominante sur tel et tel truc, il y a plein de sujets dont on peut discuter, mais tout le monde comprend, je crois, que Apple est une société importante qui fait des choses intéressantes. Et ce n'était pas le cas il y a quelques temps.
Non, il y a eu un creux. Il y a eu un creux, et on l'a vu. Hein, c'était d'ailleurs à l'époque, finalement, de la première Apple Watch, juste un peu avant. Ils faisaient des produits qui étaient plus des produits de mode, finalement, et moins des produits dont l'usage changeait vraiment quelque chose. Et ils sont revenus aux bases de... une problématique, une solution avec un produit efficace qui certes n'est pas le plus complet de la Terre. Évidemment, les gens qui ont des téléphones Android te diront toujours ils font de meilleures photos, bref, ils font un milliard de trucs de mieux, mais les faits, ce qui est utilisé tous les jours, c'est ça qui est important. C'est-à-dire ce que tu fais facilement tous les jours avec ton appareil. Tous les jours, je me bats avec ma femme sur ça, qui est passée sur un iPhone 12 depuis décembre. Et toujours elle me dit « Ah ouais, ben, bravo Apple, c'est censé être intuitif, mais là je veux modifier tel truc dans le réglage, machin. » Je lui dis « Mais attends, écoute, tu vas le faire qu'une fois en fait. C'est un truc que tu fais qu'une fois quand tu as ton téléphone. Donc pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce soit accessible tout de suite ou que ce soit… Par contre, tout le reste, tout ce que tu utilises tous les jours, ça fonctionne tout de suite. Donc, et c'est cette vraie problématique que les gens ne comprennent pas toujours quand tu utilises un produit Apple en fait. C'est qu'effectivement… et j'en parlais avec d'autres auditeurs sur des émissions, mais par moment on a l'impression que c'est de la magie noire la façon dont ça fonctionne. C'est-à-dire que tu vois Hands Off ou la Sidecar avec un iPad, il y a zéro paramétrage en fait, on peut rien paramétrer, donc ça marche en fait, et d'ailleurs le jour où ça marche pas tu sais pas pourquoi, tu peux pas le régler toi-même, mais dans les faits ça marche, et c'est ça qui est, ils ont remis l'usage au centre, et je trouve que c'est justement, ils ne se perdent plus dans les errements technologiques de... Aujourd'hui, on s'en fiche de savoir si c'est un M1 ou un Intel dans un Mac. qui va rester à la fin, c'est combien j'ai d'autonomie et est-ce que je fais les choses que j'ai l'habitude de faire rapidement.
Oui. Bah, ça a toujours été le principal souci d'Apple, c'était de plaire à 80% des gens dans 80% des usages. C'est et ça. Les trucs spécifiques, ils les éliminent, mais ils fonctionnent pour ça, mais je dirais qu'ils vont même encore plus loin avec le développement d'un écosystème qu'on n'avait pas forcément vu venir de cette manière, même si c'est vrai qu'avec iTunes, iPad, machin, iPod, c'était déjà un petit peu le cas, mais là encore plus qu'avant. Il y a un truc intéressant, par exemple, avec la dernière bêta d'iOS, ils sont en train d'implémenter un déverrouillage par reconnaissance faciale avec le Face ID, même quand on porte un masque, mais à condition qu'on ait une Apple Watch au poignet. C'est-à-dire que c'est un facteur de sécurité supplémentaire et qui fera que, bah, il a les données que du haut de votre visage et pas de tout le visage parce que vous portez le masque. Mais bon, comme il y a la Watch, ça fait un truc de sécurité en plus, donc pas besoin d'avoir
le déverrouillage. Apparemment, c'est pas parfait pour le moment. Hein.
J'en doute pas.
Ça déverrouille un peu facilement. Mais en vrai, c'est bien que tu parles de ce problème-là parce que justement, je vais reparler de ma femme. J'ai l'impression d'être Columbo. Tu sais. Ma femme dit toujours. Donc, comme me disait ma femme, quand elle avait son téléphone Android et sa montre, son appareil Bluetooth, son tracker d'activité, quand il était connecté à sa montre, elle n'avait pas besoin de déverrouiller quoi que ce soit. À partir du moment où il était à portée et à côté, ça le déverrouillait. Elle me dit, c'est dommage avec les masques, on ne puisse pas faire ça avec l'iPhone. Bingo, iOS 14.5. Et puis, elle a une Apple Watch à Noël. Du coup, c'est parfait, quoi. Mais c'est exactement ce genre de petits détails à ajouter. C'est-à-dire que Apple aurait pu l'implémenter bien avant. C'est-à-dire que sur Android, même, vous pouvez déverrouiller automatiquement votre téléphone, même si ce n'est pas une montre. C'est un casque Bluetooth, peu importe, un appareil Bluetooth qui est connecté à votre téléphone, le déverrouille tout seul. C'est vous qui choisissez l'appareil de confiance, en fait. À partir du moment où il est connecté, il déverrouille le téléphone. C'est très con, mais en fait, ça marche vachement bien. Le souci, c'est qu'il y a un vrai souci de sécurité. Ouais. Il suffit que l'appareil soit à portée, à côté. Là, en fait, j'aurais jamais vu Apple implémenter ça. Pour moi, ce n'était pas possible. C'est une faille de sécurité monstrueuse. Là, pour le coup, dire, on va cumuler deux facteurs, en gros. Le facteur de la montre qui dispose d'un code et le facteur de la moitié du visage, en tout cas. Et dans ce cas-là, je déverrouille. Je trouve que c'est pas mal, quoi. Je trouve que c'est pas mal, cette implémentation. Mais il aura fallu attendre, quand même. Il y a une condition quand même qui est énorme, c'est d'avoir une Apple Watch, quoi.
C'est bien sûr, mais c'est pour ça que je dis l'écosystème dans lequel ils te mettent et de plus en plus, 16 milliards sur les services, 16 milliards, et y a des trucs, ils ont lancé un truc aux États-Unis qui s'appelle Walk With Me, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est des célébrités qui font une petite conversation ou une petite qui explique, qui parle pendant 20-25 minutes pour vous encourager à aller marcher. Et ils marchent pendant ce petit enregistrement. Et donc, vous marchez ensemble. Et ça vous encourage à aller marcher pendant la pandémie, justement. Si vous êtes tout seul, vous pouvez au moins marcher un petit peu. Ils racontent leur vie, racontent des trucs. Enfin, c'est des gens célèbres. Je me demande si c'est pas le début des podcasts chez Apple, le début d'un service de podcast.
Tu sais quoi ? On devrait lancer sur French Spin un Walk with Podcaster. Et du coup, tu invites Corben, Jérôme et tout ça à venir raconter, je sais pas, son parcours de vie ou j'en sais rien, une minute, une demi-heure. Et on propose ça en podcast que les gens peuvent télécharger, ils choisissent l'épisode de leur choix, ils peuvent marcher avec Patrick, marcher avec Corben.
C'est un peu Patrick et Cédric à deux doigts d'inventer le podcast quand même. Hein.
T'as vu, hein. On a deux doigts d'inventer le podcast. Quoi.
Exactement. Bon, il y a d'autres choses qui se passent dans le monde de la tech quand même. J'ai enfin eu un accès à Clubhouse. Tu connais Clubhouse, Cédric?
Oui, oui, oui.
Alors, c'est Léo Laporte qui m'a envoyé une invitation. Donc, je suis très fier, je fais du name dropping pour ceux qui connaissent. Les autres disent, mais de qui ? Et donc, Clubhouse, c'est un réseau social dont je parlais il y a quelques temps qui vous permet de rentrer dans des salles où des gens sont en train de parler.
À deux doigts d'inventer Discord.
C'est un petit peu ça. C'est un peu ça, sauf que l'interface est différente, c'est sur téléphone mobile bien sûr, et on ouvre l'app et il y a différentes salles où il y a différentes personnes qui parlent et il peut y avoir genre, je sais pas, 100, 150, enfin ça peut être de 10 à beaucoup plus de personnes qui parlent et il peut y avoir des centaines ou des milliers de personnes qui écoutent, c'est du streaming audio en fait, on peut il y a un système très simple pour lever la main et être intégré à la conversation si on le souhaite. C'est vraiment du streaming, c'est le Discord ou le Twitch de l'audio. Et il a vraiment le vent en poupe dans la Silicon Valley. Et il y a peut-être un potentiel pour que ça soit quelque chose d'intéressant. Moi, je l'ai trouvé vraiment, dire « Ah, mais oui, c'est comme Twitch ou ça existe déjà », c'est un peu comme dire à la sortie de Twitter « Ah, mais c'est comme Facebook, ça existe déjà ». C'est, c'est suffisamment différent.
Tu regardes Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, avec les flits, les stories, c'est les mêmes réseaux.
Bah écoute, moi je trouve, bah non, la preuve, il y a quand même des gens différents et des usages différents sur tous ces réseaux. Et Clubhouse donc pourrait être un autre truc du genre. Et d'ailleurs, comme toujours, Elon Musk a mis son petit grain de sel là-dedans et il a fait un Clubhouse, il a participé à une conversation sur Clubhouse qui était peut-être pas scripté mais prévu par Andreessen Horowitz qui est un des investisseurs de Musk et de Clubhouse, enfin bref. Bref, mais en tout cas, ça a fait exploser la fréquentation du truc. Et maintenant, c'est le truc où tout le monde dit « Oh, est-ce que tu as une invite ? Tu peux m'inviter ? Tu peux machin ?» Mais c'est vraiment intéressant comme système. J'ai du mal à expliquer pourquoi c'est différent d'un truc comme Twitch ou comme... En fait, c'est vraiment... Le fait qu'il y ait que de l'audio est un peu particulier. C'est vraiment... On t'incite à ne pas avoir honte de rentrer dans une salle et de repartir... sans hésitation. Et puis, il y a quelque chose d'assez intime avec l'audio. Vous êtes des auditeurs de podcast, donc il n'y a pas... Ça ne vous surprendra pas, mais il y a quelque chose de plus intime. J'ai l'impression que les gens sont un peu plus authentiques, qu'on a l'impression d'être vraiment avec eux, alors que quand il y a l'image avec Twitch, par exemple, il y a une sorte de distance qui se crée immédiatement. Discord, c'est pas vraiment des trucs publics. Il y a plein de serveurs différents. Il faut aller dans différents endroits pour essayer de trouver la conversation qui nous intéresse. Là, dans Clubhouse, on a une immense liste de centres d'intérêt, et puis ils vont nous recommander des trucs. On peut suivre des gens et voir quand eux, ils vont aller dans des salles, ou ce genre de choses. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Je ne sais pas si ça prendra, mais il y a quelque chose d'intéressant, je trouve.
À tester. Moi, j'avais testé déjà des systèmes du même style. C'est effectivement rigolo. Après, je ne sais pas si ça peut apporter... Enfin, c'est bien en temps de pandémie. C'est le genre de réseau qu'il faudrait qu'il sorte. Enfin, quand tu es seul chez toi, tu ne sais pas quoi faire. Tu rejoins une conversation. C'est un peu comme si tu voyageais virtuellement chez quelqu'un. Tu ne peux plus faire de soirée, discuter avec des gens, rencontrer des gens. Bah, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu l'idée.
Ouais, je trouve que c'est un peu Twitter, le Twitter de l'audio, en quelque sorte. Ils ont trouvé une formule qui fonctionne, je trouve, assez bien. Bon, à voir si ça prendra, hein. Ça peut tout à fait s'effondrer bientôt, mais...
Non, en vrai, si vous êtes tout seul en temps de pandémie, ça peut occuper vos soirées, clairement.
Ouais, c'est sûr. Je voulais parler aussi de... comment il s'appelle ? Nextdoor. Tu connais Nextdoor ?
Yes.
Nextdoor, c'est un réseau social qui est un petit peu le réseau social des voisins, qui existe depuis longtemps. Mais il y avait un article que je mettrai d'ailleurs dans la newsletter. Si vous voulez voir tous les trucs dont je parle là, les gros articles de grosses lectures intéressantes, je les mets dans la newsletter. Donc, notepatrick.com/rien du tout, vous avez un truc pour vous abonner à la newsletter. Mais il y a un article hyper intéressant de Will Oremus sur Medium qui explique... comment Nextdoor est en train de remplacer les petits journaux locaux, en fait. Et est en train d'installer ce modèle sans filtre des réseaux sociaux. D'ailleurs, on parle de modération, quand on parle de Clubhouse, ça va être infernal, la modération pour Clubhouse. Mais à côté de ça, le modèle sans filtre des réseaux sociaux, où, par exemple, c'est l'exemple qu'il prend, les élus peuvent aller parler directement aux administrés sur Nextdoor sans le filtre des journalistes, sans la médiation des journalistes. Et oui, un petit peu comme... un petit peu, ouais, et pour s'inscrire à Nextdoor, il faut vraiment avoir habité dans le quartier et tu n'as accès qu'au poste du quartier, en fait. Donc, c'est vraiment très contrôlé dans le sens où il faut parler avec son propre nom. Et là, c'est vérifié avec identité. Enfin, ça rigole pas. Mais évidemment, ça dérive toujours sur des trucs genre j'ai vu quelqu'un d'un petit peu étrange traîner dans le quartier hier soir. Évidemment, c'est toujours des personnes de couleur ou un sans-abri. Tu vois, c'est toujours ces gens-là qui sont c'est une personne un peu étrange. Qu'est-ce qu'il fait dans notre quartier ? Donc, évidemment, il y a plein de problèmes comme ça. Mais au-delà de ça, les politiciens, de la même manière que Trump s'adressait à sa base nationale et internationale directement avec Twitter, et ben en fait là, Nextdoor est en train de créer le même phénomène avec à plus petite échelle, au niveau des villes. Et il le décrit de manière très intéressante dans cet article, autant dans le bon sens que dans le mauvais sens, parce que ça a mené à des décisions catastrophiques pour certaines villes qui ensuite ont été renversées parce que justement les gens ont été actifs sur Nextdoor et ont réussi à activer une base pour aller voter sur une décision de la ville plus tard pour réactiver le financement d'une école, en l'occurrence. C'est de ça dont il parlait. Mais c'est hyper inquiétant aussi parce que sur Nextdoor, comme on ne peut voir que les communications de notre localité, c'est un petit peu le flux personnalisé de Facebook qui fait qu'on ne sait pas ce que voient les gens parce que chaque personne a un flux différent et on a fait beaucoup de micro-targeting avec Facebook. Ben là, c'est un peu la même chose. On n'a aucune idée de ce qui se passe sur Nextdoor en général parce qu'on n'a accès qu'aux informations de notre entourage physique immédiat. Et c'est hyper intéressant cet article, je vous recommande d'aller le lire, mais là non plus, je ne sais pas quoi en penser.
France, Nextdoor, on n'en est pas là. Hein.
Ah, c'est sûr.
Moi, je l'ai utilisé il y a très longtemps, un an, je crois, ou deux. Plus.
Moi, ça fait encore plus longtemps. Ouais.
Toi, ça fait plus vieux, c'est plus vieux que ça, toi, encore ?
Ouais. Mais il n'y avait personne. Il n'y avait personne sur Nextdoor.
Non. En fait, c'est parce que j'avais reçu dans ma boîte aux lettres un petit courrier d'un voisin qui disait inscrivez-vous dessus avec un code, machin, tout ça. Bon, ok. Donc, du coup, j'ai marqué j'habite dans la résidence, on crée un réseau de voisins et tout. Au début, débarquant là, je me suis dit j'attaquais ma nouvelle vie et tout. Je me suis dit pourquoi pas, s'il y a un peu d'entraide, si quelqu'un me donne une personne, j'en ai une. Tu vois, enfin, c'était vraiment ça l'idée.
Ouais.
Et donc, je m'y suis inscrit. Mais en fait, ça a très vite dévié en si vous cherchez des gardes d'enfants, c'est que des annonces de babysitter ou tu vois de coiffeuse à domicile. Bon, avec ma coiffure, autant te dire, c'était pas très utile, voilà, c'était que des trucs comme ça. Ensuite, j'ai commencé à voir apparaître les gens qui se plaignaient. La politique a commencé à arriver quand les gens ont commencé à se plaindre de telle route qui n'était pas entretenue, de tel quartier qui maintenant était compliqué à traverser, ou des hommes qui cherchaient des dames de compagnie. Je me suis dit, ok, alors où est-ce qu'on est là, en fait ? Et en gros, c'est devenu une espèce de site de petite annonce, en tout cas dans mon quartier, c'était n'importe quoi. Et j'ai fini par supprimer mon profil, désinstaller. En plus, c'était très chiant, ils envoyaient des mails sans arrêt avec « Hey, machin, propose ses services pour garder des enfants, hey, machin. » C'était une catastrophe, mais effectivement, ils ont intégré l'idée de la politique dans le sens « faisons bouger la ville ou notre quartier dans le sens que l'on souhaite », sauf qu'ils n'ont pas pensé que le sens que l'on souhaitait pouvait très vite devenir ultra radical, en fait.
Bah,
et
comme,
ça part d'un bon sentiment, mais on oublie à chaque fois que il n'y a pas que ça, en fait.
C'est exactement en fait une amplification de choses qui existent déjà et beaucoup de gens disent quand on parle de ce genre de choses, ah oui mais c'est qu'un outil, on peut en faire, les gens en font ce qu'ils en font et voilà. Et c'est vrai, mais la préoccupation vient du fait que ces outils en fait démultiplient vraiment la puissance de tout ce qui se passe en bien et en mal. Et donc c'est un petit peu plus à la fois enthousiasmant et préoccupant. Mais si c'est préoccupant et qu'il y a un gros problème, eh ben le gros problème est démultiplié. C'est un petit peu comme, alors la comparaison est hasardeuse, mais c'est un petit peu comme la bombe atomique de l'outil technologique, tu vois. C'est pas exactement ça, mais on a des armes conventionnelles et il y a des armes non conventionnelles. Ce genre d'amplification de tendance, c'est presque genre l'arme non conventionnelle de la tech et de l'Internet, quoi. Je sais pas, c'est les... Bref.
En fait, j'ai l'impression que quand on lance ces services-là, On oublie qu'on n'est plus au début des années 2000 où on est très peu et où on est tous à penser qu'Internet c'est génial parce que ça connecte les gens ensemble.
Ah bah ça, je crois que on est clairement plus dans cette époque-là, ouais.
Mais on n'est plus dans cette époque-là. Mais le problème, c'est qu'on lance ces services comme si on était encore dans cette époque-là. Et ça part d'un bon principe. Mmh. Tu sais, c'est à chaque fois pareil. J'imagine très bien les mecs qui ont lancé cette app Nextdoor en se disant on est parti d'un constat simple. Le lien. Aujourd'hui, vous connaissez des gens à l'autre bout du monde, mais vous connaissez pas votre voisin, la personne qui habite à côté de chez vous, à qui vous pouvez rendre service. Aidez-la, rejoignez votre communauté locale et changez le monde, tu vois. Ouais. Sauf qu'à la fin, ouais, ok, mais la vraie vie, c'est pas ça. C'est-à-dire que ton voisin d'à côté, il peut très bien être raciste, il peut très bien être, j'en sais rien, et il peut avoir une vraie influence aussi et être. Et le problème, c'est qu'en plus, ça entretient une bulle parce que tu vois vraiment que c'est que des flux personnalisés. Il n'y a pas de modération possible, en fait. Enfin, c'est ultra complexe, quoi. Je comprends pas qu'on puisse lancer un service comme ça en fin des années 2020. Enfin, c'est plutôt fin des années 2010.
Mais Nextdoor existe depuis des années. Hein. Nextdoor
c'est ça, mais on ne peut pas lancer, en plus, mettre en avant l'aspect politique de la chose en oubliant qu'on est en 2020, quoi. Enfin, avec tout ça.
Ah bah, ils sont censés, tu sais, c'est marrant, ils disent dans l'article, on n'est pas censé parler de sujets politiques, enfin, il y a des restrictions sur ce genre de choses, mais bon, bref. Ces deux choses-là, ces deux réseaux, c'est des réseaux sur lesquels je vous recommanderais de garder un œil. Vous savez, dans l'émission, souvent, je me dis, bon, il faut que je déniche les tendances pour que je vous en parle, et comme ça, vous saurez, ne serait-ce que, même si ça ne change pas la vie, ne serait-ce qu'à la machine à café, quand enfin ça arrive sur les radios et les télévisions nationales, vous connaissez déjà, vous avez suivi le truc, et vous pouvez dire à la machine à café, ou dans le Zoom call, prenons un verre ensemble, ah bah oui, non mais ça c'est un truc qui existe depuis tel moment, et puis la préoccupation, tu sais, c'est ça et ça, parce qu'ils t'ont dit au journal, ou machin, c'est ça qui pose vraiment problème. C'est un petit peu une des raisons pour lesquelles je fais l'émission. Donc là, Clubhouse et Nextdoor, gardez un œil dessus.
Oui, Clubhouse, bon. C'est une évidence.
Ouais, oh, tu sais, ça peut faire pouf, hein. Ça peut disparaître dans quelques mois.
Vu la période dans laquelle on vit, pour moi, c'est exactement ce qu'il fallait faire.
Ouais. Et Clubhouse est beaucoup plus récent pour le coup. Clubhouse, c'est effectivement une boîte qui s'est lancée il y a quelques mois, quelque chose comme ça.
C'est ça.
Allez, quelques news un petit peu plus rapides. On a d'une part eu un rapport selon lequel les comptes vérifiés sur Twitter auraient partagé proportionnellement plus de fake news que les autres.
Étonnant.
Ce qui est quand même, je ne sais pas, rigolo et déprimant. Moi, je suis content de ne pas être vérifié sur Twitter, du coup. Toujours en parlant de Twitter, ils sont en train de donner des monceaux de données, justement, de données publiques à des chercheurs pour essayer de voir si on ne peut pas déceler les prémices de la pandémie grâce à la communication sur Twitter. Vous savez que Google a des systèmes similaires pour déceler l'arrivée de la grippe saisonnière, par exemple, en fonction des recherches que font les gens sur Google. Bah là, c'est les gens qui mentionnent pneumonie, par exemple, ou ce genre de choses, qui pourraient indiquer s'il y a des augmentations statistiques significatives qui pourraient permettre de détecter ce genre de choses avant même qu'on se rende compte que médicalement, c'est avéré dans la région. Donc ça, c'est assez intéressant. Quoi d'autre ? YouTube est en train de réussir à contrer TikTok. Bon, pas tout à fait, mais leur fonctionnalité de shorts, les vidéos courtes, a quand même 3,5 milliards de vues par jour, rien qu'en Inde. Donc, ils vont amener la fonctionnalité ailleurs dans le monde. Tu m'interromps hein, si tu veux dire des choses sur Twitter ou autre. Google est en train de fermer les studios de développement de jeux qui devaient faire des jeux pour Stadia. Ouais. Je ne sais pas si... On en parlera dans le rendez-vous jeu. Donc, si ça vous intéresse, allez écouter le rendez-vous jeu qui sera enregistré jeudi. Mais vous savez, j'ai l'habitude de dire...
C'est peut-être une bonne nouvelle.
Bah, en fait, possiblement, oui. parce que ça veut dire que Stadia a enfin une direction, et c'est une direction dont je parlais déjà, je l'avais fait dans un article Medium, que je mettrai encore dans la newsletter, tiens, mais dont j'avais parlé dans un article Medium il y a 2 ans, 1 an et demi, où je disais, mais Stadia, leur business model, c'est pas de vous vendre des jeux, je crois, c'est surtout de proposer un service marque blanche, clé en main, pour d'autres développeurs de jeux, je crois. Et là, vu qu'ils ne vont plus avoir de développement de jeux exclusifs pour leur plateforme, j'ai du mal à voir la plateforme s'imposer. Je ne pense pas que ça sera la fin tout de suite, mais ça pue un peu quand même, quoi. Et je le dis souvent, mais les gens de la tech, que ce soit les journalistes ou les responsables de boîte, pensent qu'ils comprennent le jeu vidéo. Et en fait, à chaque fois, peut-être pas à chaque fois, mais généralement, quand ils disent quelque chose sur le jeu vidéo, vous pouvez être sûr que c'est une grosse connerie. On a eu des monceaux de... Enfin, les gens qui disaient que Nintendo devrait arrêter de faire du matériel et se mettre à faire des jeux sur téléphone. La Switch et la console est pas loin d'être en train de devenir la console de la plus vendue de l'histoire de Nintendo. Enfin, bref. En tout cas, Stadia Game Studios est en train de fermer.
Dommage.
Ouais, c'est dommage. Et puis, il y a des gens derrière qui vont perdre leur boulot, parce que je ne suis pas sûr qu'ils sont allés chez Google pour travailler sur le moteur de recherche, les gens qui voulaient faire des jeux vidéo. Mais bon.
Oui, oui.
Ford va mettre Android dans ses voitures à partir de 2023. C'est plutôt pas mal, je pense. C'est bien qu'on ait une standardisation. Je voulais aussi parler de cette pratique du SPAC. Est-ce que tu sais ce que c'est que le SPAC ?
SPAC. Pas du tout, ça, par
contre. Alors, j'ai plus l'acronyme, mais en fait, c'est une pratique. On parlait de bourse. Il faudrait que quelqu'un qui sait de quoi il s'agit exactement en parle, mais moi, je trouve ça un petit peu étrange. C'est Single Purpose quelque chose. C'est une société, en fait, qui est créé uniquement pour fusionner avec une société qui n'est pas cotée en bourse pour la rendre cotée en bourse. C'est-à-dire que c'est une société qui va être cotée en bourse, mais qui est vierge, et qui va fusionner avec une société qui n'est pas cotée en bourse, et qui, de ce fait, la transforme en société cotée en bourse, sans passer par les processus légaux habituels du passage en bourse. Ça pue un peu, je crois. C'est pas illégal, clairement, ça se fait tout le temps. Et ça se trouve, c'est complètement normal, ça pose pas de problème. Mais je sais pas, dit comme ça, je trouve ça...
C'est un peu comme ta femme qui est devenue française parce qu'elle s'est mariée avec toi, quoi.
C'est un petit peu ça. Bon, il se trouve qu'elle est pas française, mais c'est un peu ça. Sauf que là, c'est dans le truc des... Enfin bon, bref, je le mentionne.
Il y a un intérêt financier derrière, je veux dire, on voit tout de suite. C'est pas un mariage blanc ou tu vois, un truc...
Oui.
C'est pourquoi, en fait.
Je le mentionne comme ça et puis on en reparlera, je suis sûr, à un moment. Quand Jeff reviendra dans l'émission, on lui posera la question. Mais je suis un petit peu... Je sais pas, ça allume des petites lumières dans l'arrière de la tête. Allez, on termine avec un truc marrant et une bonne nouvelle. La Model S, est-ce que tu as vu le nouvel intérieur de la Tesla Model S ?
Mais bien entendu, avec ce volant en U.
Oui,
cet écran magnifique et cet écran à l'arrière aussi pour les gens qui sont derrière maintenant.
Ouais, ça donne un petit peu envie, j'avoue. Et en plus, elle a un PC super puissant dedans, donc on peut jouer au dernier jeu dans la Tesla. Bon, je sais pas si c'est vraiment intéressant de jouer à The Witcher dans ta Tesla, mais
Cyberpunk, tu veux dire, dans ton Cybertruck. Mais en vrai. En vrai, est-ce que c'est intéressant ? Je ne sais pas, mais si j'ai envie de jouer à Cyberpunk, ça me coûte beaucoup moins cher quand même d'acheter un PC. Parce que les 140 000 euros ou 150 000 euros de la Tesla Model S, c'est un peu...
Bon, accessoirement, c'est aussi une voiture qui roule, hein, donc...
Oui.
Ça fait ça aussi.
Alors que contrairement à ma PS5, je ne pourrais pas rouler avec. Mais est-ce que si j'achète une Dacia Sandero et j'y installe à l'intérieur une PS5 avec un écran 21 pouces, j'ai pas mieux. Tu vois ?
Ah, écoute, on laissera aux auditeurs l'appréciation de la qualité des deux propositions. Allez, et la dernière chose que je voulais évoquer, c'est le fait que l'année dernière, dans l'Union européenne, les énergies renouvelables représentent un plus grand pourcentage de fourniture d'électricité que les énergies fossiles. Et quand on parle d'énergie renouvelable, on parle de solaire, hydraulique et éolien. Ça représente 38%, alors que les énergies fossiles, donc charbon, gaz naturel, etc., représentent 37%. Et alors, c'est pas vraiment vraiment tech, mais je me dis que c'est une nouvelle, une bonne nouvelle. Le reste, j'imagine que c'est du nucléaire. Hein. Je pense que c'est... Donc, c'est pas non plus 100% propre, même si entre charbon et nucléaire, je pense que le choix est vite fait.
Décarboné.
Voilà. Comment... Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et évidemment, il faut pas s'arrêter en si bon chemin. Hein. Il faut continuer et dans ce domaine et dans d'autres. Mais j'ai été très surpris de lire la chose... Parce que c'est le genre de choses dont on n'entend pas vraiment parler, donc je vais le mentionner. Ouais.
Mais c'est sur des bonnes nouvelles, tu vois.
Mais tu te rends compte, c'est quand même hyper important, quoi. Mais exactement, factfulness, Cédric. Non, mais je veux dire, au-delà de mon combat permanent pour que les appréciations du monde soient basées sur des choses factuelles, des faits et des analyses statistiques fiables plutôt que des sentiments, au-delà de ça... Que 38% de l'énergie électrique en Europe soit renouvelable, et c'est du vrai renouvelable, solaire, hydraulique, éolien, c'est énorme. Enfin, je sais pas, moi, je trouve ça... Et continuons dans cette belle voie.
C'est énorme, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, le prix de ces énergies-là diminue par rapport aux énergies fossiles, et c'est comme ça qu'on va y arriver.
Ouais. En fait.
Plus on produit, plus on fait diminuer le coût, et plus on fait diminuer le coût, plus on utilisera d'énergie. Ça sera plus sympa d'acheter de l'électricité faite à base d'énergie fossile plutôt que de charbon ou autre. Quoi.
D'énergie renouvelable, oui, plutôt que
d'énergie renouvelable, d'énergie fossile, oui.
Tout à fait. Eh bien, écoutez, on continue dans cette belle direction. Ça va être tout pour cet épisode. Merci Cédric d'avoir partagé ce moment avec moi. Est-ce que tu pourrais nous dire où on peut te retrouver, toi et ta luxuriante chevelure sur Internet?
Non, ça va aller vite. Non, mais tiens, je vais en profiter pour un truc. Tu m'autorises à faire la promo d'un événement?
Autant que tu veux, Cédric.
Ok, parfait. Alors déjà, vous me retrouvez sur Internet assez facilement en tapant mon nom. Non, je plaisante. Vous me trouvez sur studiorenegade.fr et aussi sur la chaîne Epitech Live, puisque j'anime des choses là-bas. Mais surtout, vendredi, donc pour ceux qui nous écoutent, après vendredi 5 février, c'est raté, mais vous aurez les replays, j'organise toute la journée avec Denis, qui était dans la chatroom là, tout à l'heure, de chez Epitech, une journée complète sur la tech, de 8h à 17h, avec des conférences toutes les heures. On a 8 speakers qui vont passer, de chez OVH Cloud, de chez Ubisoft, de chez Mano, enfin bref, de chez CGI, Promise et autres. Donc des belles sociétés qui vont venir parler technique. Donc il y aura des conférences qui sont très techniques. Chez Ubisoft, on a quand même le coordinateur de projet de Assassin's Creed Valhalla qui est là et qui va venir expliquer comment il gère les équipes techniques, les charrettes quand on est en retard sur un projet et tout. Donc c'est plutôt cool. Ils vont expliquer leurs méthodes agiles, ce qu'ils utilisent en fait chez Ubisoft pour bosser. OVH Cloud va parler du cloud, entre autres, mais aussi de Kubernetes. Il y aura des conférences ultra techniques. C'est toute la journée. Ça s'appelle Insight, donc Insight. Ça sera sur la chaîne Epitech Live, donc twitch.tv/EpitechLive. Et donc de 8h à 17h, n'hésitez pas. Walou.
Super. Merci beaucoup, Cédric. Allez-y, nombreux. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous savez aussi que vous pouvez soutenir l'émission sur Patreon, patreon.com/rdvtech, et que vous avez, comme je le disais tout à l'heure, des bonus incroyables, comme des émissions sans pub ou les time codes pour passer un sujet qui ne vous intéresse pas forcément, en plus de la satisfaction qui n'a pas de prix de soutenir une émission que vous appréciez et qui vous fait passer de bons moments, j'espère. Et vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter sur NotePatrick.com, enfin Tout est sur notepatrick.com, c'est hyper simple, vous allez là-bas et vous avez accès à absolument tout, y compris le Twitch sur lequel on enregistre en direct toutes les semaines les émissions. Vous pouvez rejoindre la chatroom, vous pouvez aussi regarder les vidéos que je fais sur YouTube, où je fais des vidéos sur le gaming, youtube.com/notepatrick. Enfin, je suis notepatrick partout, vous le savez, mais surtout, surtout, ce qui est important, c'est le Patreon, patreon.com/rdvtech. J'espère que vous allez bien vous porter. Et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.